La rupture qui semble donc consommée, la dénonciation de l'accord prend effet immédiatement et la présence américaine est désormais vue comme illégale au Niger. On en parle avec vous, Frédéric Charillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris-Cité, spécialiste des questions de défense. Alors déjà, Frédéric Charillon, on va poser les choses. Aujourd'hui, quelle place ont les États-Unis au Niger ?
C'est très difficile à dire, parce que vous venez de le dire, l'accord a été dénoncé. Après le départ français, qui était lui-même chaotique, puisqu'on avait essayé quand même de dire longtemps on va rester, on ne reconnaît pas à ce gouvernement illégitime le droit de nous de décider de notre présence ou pas. On avait fini, les troupes françaises avaient fini par partir, on s'en souvient. Les Américains, comme vous l'avez rappelé à l'instant, avaient réussi à préserver leur présence. Et d'ailleurs, ça avait provoqué des petites tensions avec Paris, parce qu'on avait l'impression que nos amis américains nous avaient un petit peu lâchés sur cette affaire, précisément pour essayer de préserver, eux, leur présence. Ça a été finalement inutile, puisqu'ils viennent de partir. Alors, il y a une dynamique globale qui est celle d'un Sud qui s'éloigne de l'Occident, qui est dans une rhétorique maintenant souverainiste ou néo-souverainiste, enfin une façon de dire maintenant nous n'avons plus à accepter des ordres des pays occidentaux, des grandes puissances occidentales. Donc on a cette difficulté-là aussi bien pour la France que pour les États-Unis. Donc ça, déjà, je crois qu'il y a une première leçon, c'est que les États-Unis n'y échappent pas. On a pensé à un moment qu'il y avait une équation française particulière, à la fois parce que c'est l'ancienne puissance coloniale, parce qu'il n'a pas évidemment les moyens des États-Unis, et on se disait les Américains, ils n'oseront pas leur faire ça. Eh bien, ils ont osé le faire, et donc forcément, ça pose la question de la place des États-Unis, pas seulement au Niger, mais dans les pays du Sud, parce que si cette dynamique-là continue à se développer, si ça devient une sorte de politiquement correct, si on peut dire les choses ainsi, dans les pays du Sud, c'est-à-dire si ça devient un peu la mode de s'émanciper de tous les partenariats avec les puissances occidentales, ça va poser, les États-Unis là seront en première ligne, et seront probablement la cible des rhétoriques du Sud.
Frédéric Charillon, parce qu'il faut rappeler que le Niger abrite la deuxième plus grande base américaine sur le continent africain, après celle de Djibouti. Si les Américains étaient amenés à quitter la base d'Agadez dans le nord, quelles conséquences ça aurait pour la sécurité de la région, notamment le Sahel, puisque la France, elle est partie fin 2023?
Alors la grande question, c'est de savoir si là aujourd'hui il y a quand même un discours qu'on entend beaucoup dans les pays africains, qui est de dire les Occidentaux ne servent à rien, leur lutte contre le terrorisme, puisque c'est au nom de cette lutte contre le terrorisme souvent que des installations militaires occidentales restaient en Afrique, ça ne sert à rien, et il y a quand même une sorte d'engouement aujourd'hui qui peut paraître surprenant, mais qui est réel, pour Wagner, pour la Russie, dont on estime beaucoup, quand on discute avec un certain nombre de personnes en Afrique, qu'ils sont plus efficaces. Alors peut-être parce qu'ils sont plus expéditifs, mais en tout cas, ils sont plus efficaces. Donc, est-ce que c'est un moment à passer, et il y a un moment où des pays africains se rendront compte que non, Wagner n'est pas plus efficace que les dispositifs occidentaux. Et à ce moment-là, les choses vont traîner un peu en longueur et peut-être se calmer, ou bien, effectivement, les Occidentaux vont être très très démunis face après leur propre départ dans la région, dans la perspective de la lutte antiterroriste. On va assister à on va voir se développer en Afrique des situations où on n'aura plus tellement de contrôle ni d'information, dont on craindra évidemment qu'elles puissent donner lieu à des sanctuaires ou des bases arrières d'entraînement pour des groupes djihadistes, et nous n'y serons plus.
Et justement, vous évoquez les Occidentaux démunis, la base d'Agadez où sont toujours les Américains, les militaires américains, et constituaient beaucoup de drones. Est-ce que s'il y a un départ, les Occidentaux n'auront plus de vue sur la région et finalement les Occidentaux seraient aveugles ?
Aveugle, il y aura d'autres moyens, évidemment. Il y a les moyens satellitaires et autres. Il y a moins de moyens d'intervention, en tout cas, parce que le drone permet d'intervenir. Alors, il y a deux choses. Il y a les drones d'observation, puis il y a les drones d'attaque, évidemment, ou des drones qui interviennent militairement. En matière d'observation, enfin, dans les deux cas, de toute façon, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour les capacités occidentales en Afrique, ça c'est sûr. Sur le plan de l'information, il y a des pays qui pourront garder des moyens et d'autres beaucoup moins. C'est sans doute le cas de la France. Oui, il y a évidemment une baisse en capacité sur cette région, et c'est, bon, je ne sais pas, d'abord on attend la réaction de Washington, parce que pour le moment il y a une réaction d'attente. Est-ce qu'il y a des discussions? La rhétorique nous semble quand même très brutale, parce qu'on parle d'effets immédiats. On sent bien qu'il y a un rapprochement avec la Russie, et que c'est d'ailleurs à la suite de ça qu'ont pris les Américains de partir immédiatement. Donc cette rhétorique actuelle ne semble pas ouvrir la porte à une négociation ou une renégociation des accords de présence. Donc oui, il est probable que les États-Unis vont devoir plier bagage avec tout leur matériel, et ça ne sera pas une bonne nouvelle pour leur capacité, bien sûr.
Alors justement, vous évoquez la Russie. Quels alliés pour le Niger à présent? Les forces russes, les paramilitaires du groupe Wagner?
Alors, il y a un groupe qui est en train de se former très clairement en Afrique, qui est très solidaire. D'ailleurs, les pays où il y a eu un coup, parce que le président Biden avait qualifié il y a quelques mois ce qui se passait au Niger de coup d'État, mais on voit bien une solidarité Mali, Niger, Burkina, qui va avoir sans doute peut-être le renfort d'autres pays africains, et sur lequel la CDAO a, semble-t-il, finalement renoncé à essayer de peser. Bon. Donc il va y avoir cette espèce de groupe proche de la Russie. Est-ce que la Russie va réussir à pérenniser? Là, la Russie est dans le rôle du gêneur, et dans le rôle de l'empêcheur de tourner en rond, et qui arrive à casser les dynamiques de coopération avec les pays occidentaux. Mais il les remplace pour le moment par un groupe paramilitaire qui n'est pas une armée régulière, qui commet quand même pas mal d'exactions, qui se sert assez copieusement sur les ressources du pays. C'est sa façon de se rémunérer. Donc est-ce que tout ça est durable? C'est la grande question. Pour le moment, il y a vraiment un épisode très défavorable aux Occidentaux. Il n'y a pas de doute. Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'à un moment on va arriver aux limites de ce que la Russie peut déployer comme influence dans cette zone? C'est ça la vraie question.
L'analyse et le décryptage de Frédéric Charillon sur RFI. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris City et également spécialiste des questions de défense. Un entretien que vous retrouvez en intégralité sur RFI.fr. 13h23 ici à Paris.